Bonjour à tous, à chacun. Je termine un petit cycle de choses que j'ai commencé précédemment. Si vous n'étiez pas là, ce n'est pas grave. J'espère vous fournir ce matin quelques éléments. Je vais faire deux choses. J'espère vous fournir quelques éléments de réponse à un questionnement contemporain. Et à cette occasion, et surtout, faire entendre l'affirmation d'un texte biblique. Alors, je commence par quelques questions pour mettre en valeur le questionnement auquel j'arriverai petit à petit. Quelle attitude un chrétien doit-il avoir devant l'intelligence artificielle, devant les mouvements LGBT+, Jésus était-il pour, Jésus était-il contre? Quelle attitude devant la procréation assistée, devant les questions de fin de vie, pour ou contre? Qu'a dit Jésus? Et c'est bien là le lieu d'imprécision, si je puis dire, parce que, en fait, sur ces questions et sur d'autres, sauf erreur de ma part, à ma connaissance, eh bien, Jésus n'a rien dit d'explicite. Pas plus d'ailleurs, il me semble, que pour des questions plus ordinaires de notre vie chrétienne. Comment reconnaître la présence du Saint-Esprit dans quelqu'un? Comment reconnaître le vrai chrétien, entre guillemets? Ou bien des choses plus terre à terre. Pour prendre la scène, est-ce qu'il faut une coupe ou bien des petits verres? Etc., etc. Et on se dit que ce serait tellement plus simple, tellement plus facile, si un des évangiles nous présentait Jésus en train de répondre à ces questions que nous nous posons, où Jésus dirait « je suis pour » ou « je suis contre » ou bon, « c'est caricatural » ou bien « enfin, il dirait quelque chose ». Quoi. Voici la liste des consignes à suivre. Et j'en arrive là où je voulais en arriver. C'est qu'il y a même certains qui pourraient dire, ça va vous paraître bizarre peut-être, eh bien, c'est tout simple, on n'a qu'à rédiger ce qui nous manque. On n'a qu'à rédiger un supplément d'évangile, un bonus, un évangile du jour, mais du jour d'aujourd'hui. Un évangile à jour, mis à jour, qui raconterait les réponses de Jésus à ces questions. Et vous imaginez, si ça se produisait, ben nos questions seraient résolues. Fini les longs débats d'église pour savoir s'il faut une coupe ou des petits verres. Fini les argumentations tortueuses et pas toujours convaincantes. Voilà, ça serait réglé. Alors évidemment, il y a un os. C'est que 21 siècles après la venue de Jésus, ça ne marcherait pas beaucoup, quoi. Cet évangile-là ne serait pas vraiment très crédible. J'en arrive où je voulais en venir, mais c'est ce que je viens de raconter là qui ressemble à la science-fiction aujourd'hui. C'est bien comme ça, en fait, que plusieurs voient les évangiles que nous connaissons, Matthieu, Marc, Luc et Jean, c'est-à-dire des récits qui ne raconteraient pas ce que Jésus a vraiment tout le temps, ce que Jésus a vraiment fait, ce qu'il a vraiment dit tout le temps, en tout cas qui ne raconteraient pas que ça, mais qui au moins par moment raconterait Jésus qui donnerait son avis sur des débats qui ont eu lieu bien après lui, dans les premières églises chrétiennes. Donc les évangiles raconteraient, pour une partie d'entre eux, apporteraient des réponses à des questions, mais qui se sont posées bien plus tard. Des questions comme la suivante, qu'on retrouve dans les épîtres. Est-ce que les chrétiens peuvent manger de tout? Ou bien est-ce qu'ils doivent manger cachère, on dirait aujourd'hui? Et cette question s'est posée à Corinthe, une vingtaine d'années après Jésus. Est-ce que les chrétiens peuvent manger de la viande qui est sacrifiée aux idoles? Alors, nous dit-on, Marc aurait rédigé au chapitre 7 de son évangile un récit où Jésus répondrait à cette question par avance. Jésus dit dans ce récit, je ne donne pas le résumé. Hein. Ce n'est pas ce qui entre dans l'homme quand on mange qui le souille, mais ce sont ses mauvaises pensées. Et il dirait, tous les aliments sont purs. Donc à Corinthe, si vous vous posez des questions, sachez que Jésus a dit ça, donc vous pouvez manger de tout. Donc les évangiles nous en diraient parfois davantage sur des débats ultérieurs que sur Jésus lui-même. Autrement dit, je suis fatigué, donc je trébuche, excusez-moi. Autrement dit, ça serait un peu des faux, quoi. Même si on aurait pu les écrire en se disant, si Jésus avait dû dire quelque chose, voilà ce qu'il aurait dit, mais c'est quand même un peu des faux. Alors ça vous paraîtra peut-être bizarre, mais en fait, ces choses-là, si vous surfez sur Internet, si vous achetez des revues en kiosque, si vous regardez certaines émissions de télévision, ben, vous allez les trouver, ces choses-là. Et je m'y arrête pour cette raison-là, parce que nous risquons de les rencontrer. Et puis aussi et surtout parce que ça me permettra de faire apparaître certaines choses dans les textes, des choses qui contribuent, je crois, à la confiance, au contraire, que nous pouvons avoir dans les évangiles. Donc ça, c'est le questionnement contemporain que j'annonçais. Maintenant, je vous propose de lire le texte que je chercherai à mettre en valeur tout en réfléchissant à ce questionnement. Ce texte, il se trouve dans la deuxième lettre de Pierre, au chapitre 1, et à partir du verset 14. Donc c'est vers la fin du Nouveau Testament, si vous cherchez dans vos Bibles, un peu avant l'Apocalypse, un peu avant les épîtres de Jean, lettre de Pierre, chapitre 2. Deuxième épître de Pierre, chapitre 1. Je sais, écrit Pierre, que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur Jésus-Christ me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous vous rappeliez toujours ces choses, ce qui précède et ce qui suit. En effet, nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé qui fait toute ma joie. » Or cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la Sainte Montagne. Alors ce n'est pas un texte des évangiles, mais le lien, il est double. Il y en a un qui est évident, je pense. Tout d'abord, Pierre renvoie, alors c'est une représentation qui vaut ce qu'elle vaut, hein, renvoie à l'épisode de la Transfiguration, un épisode qui est raconté dans les évangiles, où donc Jésus emmène trois de ses disciples avec lui, et puis leur apparaissent d'autres personnages. Et il dit que cet épisode, Pierre, donc, il l'a vécu, qu'il y était, et qu'il a eu soin de raconter ce qu'il a vu, et pas autre chose. Qu'il a eu soin de ne rien inventer. Ça, c'est le premier lien avec les évangiles. Le deuxième, c'est qu'il y a des traces historiques anciennes, qui sont postérieures à la Bible, et qui rattachent cet évangile de Marc au témoignage de l'apôtre Pierre. Marc a rédigé à partir de ce qu'il a entendu de l'apôtre Pierre. Et c'est un petit peu comme si l'évangile de Marc était un peu l'évangile selon Pierre, on pourrait dire. Donc même si Pierre évoque dans ce passage l'enseignement qu'il a donné oralement, qu'il a donné auparavant, ce qu'il affirme ici me semble bien pertinent pour les évangiles. Nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées. J'y étais, nous dit Pierre. Et ce texte est intéressant à entendre parce qu'il nous fait entendre que dès le moment où les apôtres ont commencé à parler de Jésus, donc dès le premier siècle, dès le moment où les évangiles ont été mis par écrit, à partir de ce moment-là, le récit a été interrogé. Le récit a été soupçonné et leur récit a été contesté. Et il dit ça dans le cadre d'une église, donc ça a été contesté, interrogé et discuté dans les églises même qui étaient fondées par les apôtres. Et peut-être on disait des choses comme « ce sont des fables, c'est du merveilleux pour nous faire rêver parce que notre vie n'a pas beaucoup de choses pour nous faire rêver ». L'opium du peuple, pour les pauvres et les opprimés, ça ne s'est jamais produit. Donc dès le début, récit interrogé, récit soupçonné. Autrement dit, ce que nous entendons aujourd'hui parfois, et qui peut parfois nous effrayer, eh bien ça fait 2000 ans qu'on dit des choses comme ça. Alors ne nous laissons pas trop impressionner. Et j'imagine bien que quand Pierre affirme « Nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées », certains ont répliqué « Voilà ce que dit le menteur pour se défendre ». Mais il se trouve aussi que c'est ce que pourrait dire le témoin qui dit la vérité. Alors, et je reviens donc à l'exemple de Corinthe, à l'exemple précédent. 20 ans après Jésus, oui, les chrétiens se sont demandé s'il était possible ou non de manger de tout. Et bien sûr, on peut imaginer que Marc a mis dans la bouche de Jésus des paroles que Jésus n'aurait pas dites. Bien sûr, on peut l'imaginer. Ça résoudrait le problème de Corinthe. On peut tout imaginer. Mais on peut aussi tout aussi bien penser que Marc a raconté ce qui s'est vraiment passé. Parce que ce qu'on lit dans l'évangile de Marc, ça colle très bien en fait avec le contexte juif de l'époque. Du coup, je vais résumer un petit peu le début du récit. C'est un contexte où on est soucieux d'obéir à la Bible, à l'Ancien Testament. On est soucieux à tout prix d'éviter la souillure. Alors il faut se laver les mains, d'ailleurs on dit ça à nos enfants dans un contexte complètement non religieux, donc c'est une autre souillure, c'est une souillure hygiénique qui nous préoccupe aujourd'hui. Voilà, mais en contexte de l'époque, c'était un contexte aussi religieux, on est soucieux de se laver les mains, on est soucieux de manger uniquement des aliments purs, cachers. Et on vient interroger Jésus, on vient lui demander des comptes, parce que ses disciples semblent un petit peu plus laxistes, un petit peu moins scrupuleux. Et ça ne va pas. Et ça colle très bien au contexte de Jésus. Et Jésus répond, et on peut très bien comprendre que la réponse de Jésus, elle soit pertinente dans ce contexte-là, devant ses interlocuteurs, mais qu'elle soit pertinente aussi pour d'autres contextes, comme celui de Corinthe. Devant une question tout autre, est-ce qu'on peut manger des viandes sacrifiées aux idoles, par exemple ? Eh bien, Jésus dit que ce n'est pas les aliments qui souillent l'homme. C'est pertinent, là aussi. Et je voudrais vous rendre attentif, si vous ne l'avez peut-être pas vu ou si vous ne vous êtes pas posé ce type de questions auparavant, mais au fait que ce qui est raconté dans les évangiles colle très bien avec ce qu'on peut savoir de ce qui se passait en Palestine à l'époque de Jésus. Et parfois aussi, ça reste très pertinent, directement pertinent pour la suite. Et parfois aussi, on voit qu'on trouve dans les évangiles des choses qu'on ne trouve que dans les évangiles, et dont il n'est pas question dans les épîtres. Le dessin ne veut pas dire qu'on écarte les épîtres, qu'on les arrache de la Bible. Hein. C'est juste pour dire qu'il y a des choses qui sont propres aux évangiles et qu'on ne retrouve pas dans les épîtres. Et on retrouve aussi le contraire. On trouve parfois dans les épîtres des choses qui ne sont que dans les épîtres et dont il n'est pas question dans les évangiles. Et pour ma part, ça m'encourage à penser que les textes bibliques ne mélangent pas les époques. Au contraire, si j'ose dire, on ne mélange pas les torchons et les serviettes, quoi. Et je voudrais vous donner trois exemples. Le premier, c'est des choses qu'on trouve uniquement dans les évangiles et pas dans les épîtres ou dans la suite. Il est frappant de constater que l'expression par laquelle Jésus se désigne lui-même, donc c'est quand même pas quelque chose de périphérique, de négligeable, cette expression « fils de l'homme » est complètement absente des épîtres. Ce qui m'encourage à penser que le récit reflète bien, que le récit et les épîtres reflètent bien chacun deux moments différents et qu'on ne cherche pas à mélanger les deux choses. Ceux qui ont écrit ne confondent pas ce qui est dit à leur époque et ce que Jésus lui disait. Et même lorsque c'est les gens qui écrivent les épîtres parlent de Jésus. C'est le premier exemple. On constate aussi qu'il y a des choses qui sont présentes un petit peu sur les deux terrains, dans les évangiles, dans les épîtres. Mais parfois, c'est ça qui est intéressant, que je trouve intéressant, c'est que ce n'est pas présent avec la même intensité. Et l'exemple le plus apparent pour moi, c'est quand Jésus parle très fréquemment du royaume de Dieu. Et il présente très régulièrement son message en disant... En parlant du royaume de Dieu, le royaume de Dieu est semblable à telle chose, est semblable à une perle, est semblable à une femme. Et si vous lisez la suite du Nouveau Testament, vous rendez compte, alors on trouve l'expression de temps en temps, mais beaucoup moins. Là aussi, c'est quelque chose qui me semble intéressant à relever. Et le dernier exemple, c'est l'exemple pour moi le plus frappant, surtout si par rapport à la problématique que j'ai posée, c'est celui de la circoncision. Parce que quand on lit le Nouveau Testament, en tout cas quand on lit les Épîtres, quand on lit les Actes, quand on lit l'Apocalypse, on se rend compte que cette question-là a été très présente, qu'elle s'est posée très vite, parce que beaucoup de personnes qui étaient extérieures au judaïsme sont devenues chrétiens. Et ça a posé des problèmes énormes, et c'est peut-être le problème le plus présent, le plus prégnant dans le Nouveau Testament. Ça a posé des problèmes déjà dans la relation entre les juifs et les chrétiens. Les juifs étaient profondément choqués que des non-juifs s'attachent à la foi juive sans qu'on les oblige, sans qu'on oblige ces non-juifs à se faire circoncire. Et si vous vous souvenez de certains passages du livre des Actes, je pense à Acte 22, c'est facile à souvenir, ils étaient prêts à tuer pour ça. Donc ce n'était pas une question qui n'avait pas d'importance. Et ça posait vraiment d'énormes problèmes. Et puis ces questions ont posé des problèmes aussi à l'intérieur des églises. Parce que qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on oblige les non-juifs qui deviennent chrétiens à se faire circoncire? Certains disaient oui, d'autres disaient non. Et c'était la guerre. Et on a là un problème qui est présent à peu près dans 90% des épîtres, je dirais. Et très bizarrement, il n'en est absolument pas question dans les évangiles. Pourtant, s'il y avait une question sur laquelle on aurait bien aimé que Jésus dise quelque chose, c'est celle-ci. S'il avait été si facile d'inventer des récits à propos de Jésus, pourquoi ne pas avoir mis dans l'évangile de Marc quelque chose comme « Les pharisiens demandèrent à Jésus, est-ce que la circoncision est importante ?» Et Jésus répondit « Ce n'est pas nécessaire d'être circoncis pour être sauvé, pour être chrétien. » Marc ne fait pas ça. Jamais dans les évangiles, il n'est question de la question la plus importante que les églises chrétiennes aient eu à affronter à l'époque. Et probablement parce qu'il reflète la réalité historique. En Palestine, au moment où Jésus vient, il n'y a pas de débat à propos de la circoncision. Tout le monde est circoncis. Pas de questions qui sont posées à Jésus là-dessus. Il n'y a pas à se prononcer dessus. Mais 20 ans après, 30 ans après, bien, la question s'est posée. Et les épîtres, les actes en parlent. Mais on n'a pas importé des choses dans les évangiles pour ça. Donc les évangiles, comme les épîtres, reflètent ce qui correspond à leur époque, à leur milieu. Et si je dis plus banalement, enfin, c'est pas banal, ils ont cherché à dire la vérité. Je reviens à présent au texte que je voulais faire apparaître. Nous ne nous sommes pas appuyés sur des histoires habilement inventées lorsque nous vous avons fait connaître la venue de notre Seigneur Jésus-Christ dans toute sa puissance. Mais nous avons vu sa grandeur de nos propres yeux. Car Dieu le Père lui a donné honneur et gloire. Lorsque dans sa gloire immense, il lui a fait entendre sa voix qui disait « Voici mon Fils bien-aimé, qui fait toute ma joie. » Or cette voix qui était venue du ciel, nous l'avons entendue nous-mêmes, puisque nous étions avec lui sur la sainte montagne. Ce qui me frappe dans ces paroles, c'est qu'elles émanent d'un témoin. Un témoin oculaire, d'un témoin auditif. Et je voudrais nous rendre attentifs, si vous ne l'êtes pas déjà. Peut-être tellement ces récits, tellement ce texte pourrait être familier, que c'est le témoin de quelque chose qui est en fait complètement inimaginable, quelque chose de déroutant, quelque chose de déstabilisant. C'est plus que ça, c'est quelque chose d'effrayant, c'est quelque chose de terrifiant. Quand Marc, donc là c'est je projette le récit de l'évangile de Marc qui raconte cette histoire, quand Marc raconte cette histoire au chapitre 9, il raconte que Pierre est complètement dépassé. Il est tellement dépassé qu'il ne sait pas quoi faire. Et que du coup, il fait comme quand nous sommes dépassés, que nous ne savons pas quoi faire, on fait n'importe quoi. Il dit quelque chose, il dit on va fabriquer des tentes, tiens, ça va nous occuper, j'en sais rien. Mais Marc commente, il ne savait pas ce qu'il disait, car ils étaient tous les trois remplis de peur. Et une traduction plus littérale dit la chose suivante, il ne savait que dire, car ils étaient épouvantés. Celui qui témoigne ici dans la deuxième épître de Pierre doit s'entendre comme celui qui a été complètement dépassé, qui s'est vu aux frontières du réel, devant l'impossible, devant l'indicible. L'indicible, c'est ce qui ne se dit pas. Un peu comme ceux, alors je vais prendre des exemples plus banals, un peu comme ceux, et c'est probablement le cas de plusieurs d'entre nous ce matin, qui un jour se sont trouvés à mettre la main dans le feu, ou se sont trouvés dans un incendie, et qui ont senti les flammes leur lécher le corps, et qui savent ce que ça fait. Ceux qui ont cheminé le long du précipice, on peut l'entendre de manière très, très littérale, ou on peut l'entendre de manière plus métaphorique, qui ont traversé des situations si dramatiques où la vie de leurs enfants était menacée. Ceux qui ont traversé l'enfer terrestre, ceux qui ont frôlé la mort, n'est-ce pas ce qui se passe quand on réalise qu'on a frôlé la mort en vélo, je ne sais pas trop quoi, ou en voiture tout d'un coup. Il y a quelque chose qu'on vient de traverser et on se dit, mais c'était à une seconde, à une fraction de seconde. Et on s'arrête sur le bas-côté, et le corps se met tout d'un coup à trembler. Et ça, quand on traverse des choses comme ça, c'est des choses qui nous restent chevillées au corps. Et après, quand on en rend compte, on n'a pas besoin d'inventer quoi que ce soit. On raconte ce qu'on a traversé, et c'est tout. Et parfois, on n'est pas fier. On est dépassé. Je ne crois pas dans ces situations-là qu'on se sente vraiment la liberté d'inventer. Je ne crois pas. Pas à titre de parenthèse, mais c'est une illustration supplémentaire qui dit la même chose. Je pense à Michael Card, qui est un compositeur américain, peu importe, qui a mis en musique la scène de la tempête apaisée, qui est un peu du même registre. Je traduis dans ma tête. Un grand vent. A great wind, a great calm, un grand calme, a great fear, une grande peur. something in, j'ai pu commencer. Un grand vent, un grand calme tout à coup, et une grande peur. Quelque chose d'indicible est là. Il y a quelqu'un qui est là dans la barque, qui est normal comme vous et moi, mais on sait bien quelque chose qui n'est pas normal ici. Il y a quelqu'un qui dépasse tout ça. Mais les récits des évangiles, c'est ça. Et c'est bien parce que c'est ça que nous pouvons leur faire confiance. Alors évidemment, pour en revenir à ce que je disais au début, ça nous mettra peut-être dans l'embarras devant certaines questions pour lesquelles ça serait tellement plus simple, tellement plus confortable d'avoir des paroles de Jésus, d'avoir des réponses directes, simples, convaincantes, le verset qu'il faut, voilà. Eh bien, on pourra se dire que c'est probablement parce que nous avons affaire à un vrai témoignage historique et pas à la fiction que justement on n'a pas ça. Et nous pouvons entendre, je crois, du coup, la force que revêt cette parole du témoin. D'autant plus que ce témoin, vous l'avez noté ça, peut-être, mais je vais le relire. Ce témoin commence en disant mais qu'il se sait mourant, qu'il se sait mourir. Je sais que je vais bientôt quitter ce corps mortel, comme notre Seigneur me l'a révélé. Cependant, je prendrai grand soin que même après mon départ, vous rappeliez toujours ces choses. Je vous invite à l'entendre là aussi comme quelqu'un qui est devant la mort et qui en est très conscient. Et ce témoin nous dit simplement « Je sais en qui j'ai cru. » Alors je vous le transmets. Entendez cela, recueillez-le. Conservez-le avec le plus grand respect. Attachez-vous-y. Et si votre foi chrétienne était de l'ordre un peu de la routine, c'est bien aussi la routine. Mais voilà, c'est dimanche, on vient à l'église et puis on croit en Jésus. Mais cette espèce de posture qui devient finalement un réflexe et puis un Jésus qui serait un petit peu apprivoisé, auquel il s'agit, nous croyons, plus ou moins vaguement. Mais c'est plus que ça. Il y a une puissance indicible qui est là. C'est le Fils de Dieu lui-même qui a croisé les pas de Pierre et qui croise nos pas. Et qui nous adresse sa parole. Alors si je puis reprendre un peu ce que Dieu dit de lui, et le reprendre pour nous, eh bien qu'il fasse aussi, qu'il fasse pour nous aujourd'hui toute notre joie. Je vous invite à un moment de silence. Nous parlons de toi, Jésus. Nous chantons, nous nous retrouvons ensemble, portés par l'espérance, portés aussi par le réflexe, par l'habitude. Seigneur, que nous restions portés par le réflexe, l'habitude et l'espérance, que nous restions habités de toi, habités de la conscience, que nul n'est semblable à toi, que tu es vivant, que tu nous entraînes dans quelque chose qui nous dépasse, devant lequel nous ne pouvons avoir que le réflexe de nous aplatir, de nous sentir si rien du tout, si dépendant, et en même temps bouleversé de ce que tu viens à nous, tu nous redresses, tu nous appelles à toi et tu nous dis ton amour pour nous. Merci d'avoir fait cela pour nous, de t'être fait connaître à nous. Seigneur, que ta parole habite nos cœurs et nous donne joie et confiance, chacun d'entre nous.